Chapitre 6. Et voilà, ça dit non plus, je me suis pris un savon. Tu me crois maintenant ? Camille marchait près de son amie. Un pansement barrait sa joue gauche et sa paupière était enflée. Elle s'était levée plus tôt que d'habitude et avait téléphoné à Salim pour lui donner rendez-vous au parc un peu avant le début des cours. Elle lui avait tout raconté de son aventure sur la chaussée la veille, n'hésitant plus à lui parler de la pierre bleue. Il n'avait pas ri cette fois. Il l'avait écoutée avec attention, les yeux fixés sur sa joue blessée. « Et ton père n'a pas voulu te croire ?»« Non, bien sûr. » Ma mère l'a appelé et il est rentré immédiatement de très mauvaise humeur. Elle était persuadée que c'était moi qui avais cassé la fenêtre et déclenché l'alarme. Il me secouait les puces depuis une demi-heure quand il est arrivé. Il s'est aperçu que les buissons étaient piétinés sous la fenêtre et qu'un des chiens, Genji, je crois, saignait. Il en a conclu qu'un rôdeur avait réussi à franchir le mur d'enceinte. Ce n'était même pas la peine que j'essaie de leur parler de cette foutue araignée. Ils ont averti la police ? Oui, mais personne ne s'est dérangé. Tout a été réglé par téléphone. Quel bazar ! Lança Salim. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Aucune idée. Ça me soulage de t'en parler, parce qu'entre l'histoire du changement de monde et celle de l'araignée, j'ai l'impression de perdre les pédales. Camille se tut un instant. Elle reprit, un ton plus bas, et en plus, j'ai vraiment peur. Salim eut un sourire qui se voulait rassurant. Pas de souci, ma vieille, on va s'en sortir. Tu l'as sur toi, ce caillou ? Camille mit la main dans la poche de son pantalon et en sortit la pierre au bout de sa chaîne. Paume ouverte, elle la présenta à Salim et ils se penchèrent pour l'observer. « Tu m'as parlé d'une pierre, remarqua Salim, mais ça ressemble davantage à une bille. » On aurait pu croire, en effet, à une simple bille de verre, mais en son cœur, d'étranges volutes bleutées formaient un dessin en continuel mouvement et sa surface parfaitement lisse avait un aspect irisé étonnant. « Je pensais à une pierre précieuse, précisa Camille. » « De quel type ? Un diamant ?»« Je ne crois pas. Plutôt un saphir. »« Je peux la prendre ?» Camille haussa les épaules et Salim tendit la main. Ses doigts s'arrêtèrent à quelques centimètres du bijou. Il fronça les sourcils. « Je n'y arrive pas !»« Comment ça, tu n'y arrives pas ?» Salim semblait abasourdi. « Je n'arrive pas à la saisir. J'essaie, mais c'est impossible. » Camille le regarda avec un air grave. « Tu veux dire que la pierre te repousse ?»« Non, j'ai l'impression que quand ils approchent, « mes doigts arrêtent de m'obéir. Je n'arrive pas à les forcer à la toucher. »« Ouvre ta main !» ordonna Camille. Un peu réticent, Salim obéit. Quand Camille voulut déposer la pierre, il retira brusquement son bras et elle tomba par terre. « Désolée, ma vieille, je ne l'ai pas fait exprès. On dirait que ce caillou et moi, nous ne sommes pas faits pour nous entendre. »« Ça prouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, non ?»« Tu veux qu'on essaie en te bloquant le poignet ?» proposa Camille en ramassant le bijou. Salim fit une grimace. « Si ça ne te vexe pas, je préférerais éviter. » Camille remit la pierre dans sa poche, non sans l'avoir auparavant observée attentivement. L'agrafe qui la liait à la chaîne lui rappelait les griffes du monstre qu'il avait attaqué. Mais elle ne parvenait pas à la trouver repoussante. Au contraire. Quel mystère dissimulait ces insolites volutes bleues. Ils prirent le chemin du collège en silence, l'esprit occupé par un saphir étrange et une monstrueuse araignée. À l'entrée de l'établissement, ils contournèrent prudemment un groupe d'élèves de troisième qui parlaient fort et s'agitaient. Éviter les ennuis et ceux qui les provoquaient étaient devenus une seconde nature chez eux, et ils y réussissaient sans trop de difficultés. Ils gagnèrent la salle de français et s'installèrent. Leur professeur, une jeune femme, entra à son tour. Après avoir demandé le silence, avec un succès relatif, elle commença son cours. Le texte du jour était une poésie de Jacques Prévert, Le Cancre. Des photocopies furent distribuées et tandis que Mademoiselle Nicolas évoquait la tendresse et l'anticonformisme qui se dégageaient du texte qu'elle s'apprêtait à lire, Camille se renversa en arrière sur sa chaise et ferma à demi les yeux. Elle se sentait une nouvelle fois en porte-à-faux par rapport à l'école. Elle était dévorée par l'envie d'apprendre, de comprendre, de savoir, et les profs la laissaient sur sa faim. Elle avait vite saisi qu'il ne tenait pas spécialement à avoir en face d'eux une fille surdouée aux connaissances vastes et à l'esprit vif. Pour la plupart, l'élève idéal n'était pas un élève intelligent, mais un élève travailleur, calme et obéissant. Elle se savait incapable d'entrer dans ce moule, mais s'efforçait de faire semblant. Elle maîtrisait bien son rôle, et si parfois elle s'abandonnait à un éclat de brillance, la plupart du temps, les profs pensaient avoir affaire à une élève douée, mais dans la norme. Camille sourit. Elle appréciait Prévert, et qu'elle ait déjà lu une bonne partie de son œuvre n'enlevait rien au plaisir qu'elle avait à le rencontrer ce jour-là. Elle aurait simplement aimé que la classe soit plus calme afin de savourer le poème en toute quiétude. Elle avait de l'estime pour sa prof de français et regrettait que la nature du collège ne lui laisse pas la possibilité de mieux gérer les cours. Mademoiselle Nicolas, pour motiver ses élèves, essayait de leur faire mettre en correspondance l'image du cancre décrit par Prévert et la réalité de l'école. Devant le peu de succès de son idée, elle décida de lire le texte à haute voix. Dès le premier vers, Camille fut happée par la magie de la poésie. Elle adorait entendre lire, surtout avec autant de qualité et de cœur. Elle se prit à imaginer le cancre en but aux moqueries des autres enfants, à la mesquinerie de l'enseignant et sa formidable réponse. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. La scène que Camille se représentait avec netteté prit tout à coup dans son esprit une dimension nouvelle. Le moindre détail, la moindre teinte était perceptible, parfaitement distinct, comme chaque fois qu'elle imaginait quelque chose. Mais cette fois-ci, cela allait plus loin. Une porte mystérieuse s'était ouverte. Le tableau, les couleurs et les personnages lui appartenaient. Elle tendit son esprit, ajouta une touche de rouge imaginaire, modifia légèrement une courbe. À côté d'elle, Salim fit un bond. Quelqu'un poussa un cri et le professeur cessa de lire. Camille ouvrit les yeux. La classe était en effervescence et c'est en suivant le regard de Salim qu'elle comprit. Derrière Mademoiselle Nicolas, le tableau était entièrement couvert de couleurs vives, formant une image certes abstraite, mais au sens très clair, le bonheur. « Tu es sûr que c'était toi ?» lui demanda Salim. Ils étaient en récréation. L'incident avait créé un événement au collège, d'autant que le tableau était recouvert non de craie, mais d'une sorte de peinture qui adhérait parfaitement à sa surface. La deuxième heure de cours n'avait pu être assurée par le professeur de français qui avait quitté le collège, et les élèves s'étaient retrouvés dans la cour. « J'en suis certaine, j'ai eu la même impression qu'hier au parc. J'ai imaginé la scène, ou plutôt je l'ai modifiée dans ma tête. Mais on fait tous ça. » « Non, il y a une différence, et là j'en ai eu conscience. À un moment, j'ai basculé dans une dimension où j'ai imaginé exactement ce qu'il y avait sur le tableau quand j'ai ouvert les yeux. Ça alors, ma vieille, à côté de toi, les X-Men sont des vieillards gâteux. Salim, je n'ai pas envie de rire. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est simple, si on était dans un film, tu apprendrais à maîtriser ton pouvoir et tu l'utiliserais pour régler son compte à l'araignée cosmique. Salim, on n'est pas dans un film, je suis dans les ennuis jusqu'au cou. » Le sourire de Salim, qui n'était que façade, s'effaça. Si c'était vraiment toi, si c'est vraiment toi qui as peint le tableau sans t'en rendre compte, tu dois maintenant chercher à savoir si tu peux le faire volontairement. D'accord, mais comment? Eh, c'est toi la magicienne, pas moi. Moi, quand je pense à quelque chose, il ne se passe rien. Toi, visiblement, tu fonctionnes autrement. Essaie de m'expliquer, ça t'aidera peut-être. C'est compliqué, Salim. J'imagine une scène, et tout à coup elle m'apparaît avec la netteté d'une chose réelle. Et ce n'est pas tout. Je peux la modifier comme je veux. Retoucher un trait, foncer une couleur, gommer un détail, en renforcer un autre. En fait, c'est comme si je dessinais. Et pour faire ça, tu bascules dans un autre monde? Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Mais ce n'est pas un monde comme tu l'entends. C'est dans ma tête que ça se passe. Salim prit un air dubitatif. Je ne comprends rien, mais je continue à penser que tu dois essayer de le refaire. Tu n'as pas d'autre idée? Non. Mais comme a dit le gendre de ma grand-mère en pinçant le nez du requin blanc qui était en train de le bouffer, il vaut mieux une idée bizarre que pas d'idée du tout. Camille eut un demi-sourire. Heureusement que Salim était là. Avec lui, les problèmes n'étaient jamais graves. Elle réfléchit un instant à ce qu'il venait de lui proposer et dut admettre qu'il y avait peut-être là un début de solution à ses ennuis. Elle s'assit sur le rebord d'une des plates-bandes de la cour et se passa la main dans les cheveux. Salim la regardait les bras croisés. « Ok, je vais essayer, » finit-elle par dire. « Et tu vas nous dessiner quoi, cette fois ?» demanda-t-il en souriant. « Un double cornet de vanille ?»« Ton ventre te perdra, Salim. »« Non, je vais dessiner un rosier, » déclara-t-elle, en montrant le sol nu à l'exception de quelques brins d'herbe sèche. Camille tenta de se concentrer pour construire l'image d'un rosier, mais elle était sans cesse gênée par des pensées parasites. Elle crut plusieurs fois y parvenir, pourtant l'image ne prit jamais la netteté du dessin sur le tableau noir. Elle rouvrit les yeux. « Je n'y arrive pas, je vois le rosier dans ma tête, mais je ne le dessine pas. » Sans répondre, Salim se baissa, ramassa quelque chose, puis se tourna vers Camille. « Ce n'est pas vraiment un rosier, mais c'est bien une fleur, et elle n'était pas là tout à l'heure. » Camille saisit délicatement la minuscule rose blanche qui lui étendait. « Heureusement que je n'ai pas essayé de dessiner une glace, » répliqua-t-elle avec un pauvre sourire. « Tu m'aurais trouvé mesquine. »